Quartier libre. Épisode 4. Malgré le monde, portrait fantôme.
Partie 1. Stéphane. Un appartement dans un centre parental. Aimer, y a que ça qui compte. Moi, j'ai les larmes là, au bord, comme une gouttière qui gorge le fond de l'œil. Faut pas lui montrer que ça va tomber. Faut écumer discrètement. Mon métier, c'est le principe. Faire tout comme. Esra est de dos, près de l'évier. Elle termine de nettoyer la vaisselle de ce midi. Derrière elle, la fenêtre ouverte. Dehors, le monde. Malgré tout, le monde. Le bleu du ciel. J'essuie d'un revers la larme, comme une poussière. Aimer. Il n'y a que ça qui compte. Esra continue avec sa chanson là, sa chanson inventée qui me rentre dans le crâne. De dos, comme ça, la fenêtre, Esra, la chanson. On dirait un film de Bergman. Je peux reprendre un café, s'il te plaît, Esra? Bien sûr, Stéphie. C'est la seule à m'appeler comme ça ici. D'habitude, Stéphie, c'est pour la maison. Au boulot, c'est Stéphane, Steph, à la limite. Mais Nathalie a été stricte à ce sujet la dernière fois. Ici, c'est pas une maison de vacances. Vous êtes pas avec des potes. Ici, vous êtes dans un centre parental. Vous êtes des éduques, c'est clair? J'allume une clope. Je pose mon paquet sur la table. T'en veux une? Tu sais très bien que je fume pas. Et puis j'ai encore du boulot. Le boulot pour Esra, c'est l'appartement qu'elle s'est juré de cliner avant de partir. Elle est comme ça depuis qu'elle est ici. Ne pas faire de bruit, longer les murs, remercier poliment. Avec les gosses, elle est restée un mois à dormir par terre parce qu'elle n'osait pas demander un lit plus grand, un lit pour eux cinq. Parce que depuis leur arrivée ici, les petits ne dormaient plus jamais seuls. Et même qu'un matin, j'étais entré dans l'appartement, les cinq étaient alignés les uns contre les autres, sur le carrelage froid et blanc. Voilà qu'elle se met à passer l'aspirateur. C'est bon, Esra, je finirai. Il y a quelque chose qui se coince dans un coin de ma gorge. C'est le mot, là, finirai. Tu veux un verre d'eau? Je veux bien, merci. Tu sais, ça va aller. Tu viendras me voir au pays avec ta petite famille. Je déglutis, j'écrase la cigarette, c'est encore pire. La fumée dans les bronches gonfle l'angoisse. Esra me tend un verre. Ses mains fatiguées aux doigts crevassés. Sur son avant-bras que laisse découvrir son pull flottant, de petites lacérations, elle dessine des fleuves sang sur sa peau. C'est ça qu'ils appellent mauvais récit. Les lacérations ne suffisent pas pour l'État français? Pour l'État français, il faut un membre manquant, c'est ça? Une amputation? Des marques au fer rouge? Je tremble un peu. Je crois qu'elle le remarque. Ça va aller. T'en fais pas, Stéphie. Esra est plus forte que moi, même à ce moment-là, ce moment où ce devrait être à elle de trembler. Esra ne tremble pas. Bien sûr que je viendrai te voir. À mon restaurant? Je t'enverrai les filles, oui. Et ma femme? Tu viendras avec Lucie? Évidemment, je ne vais pas la laisser ici. Nathalie a été stricte aussi là-dessus quand on lui a demandé c'était quoi la position de l'association sur la situation d'Esra. La France aide au retour et à la réinsertion dans le pays quand quelqu'une n'a pas eu le droit à l'asile. C'est marqué sur le site de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a même l'histoire d'un gars qui est retourné au Maroc et que l'OFI a accompagné pour faire repartir la menuiserie familiale. T'en fais pas, va. T'as qu'à voir comment ça sera chez moi, là. Tout beau, tout propre. Chez Esra, cuisine à la française. On dirait une parfaite Lorraine avec ses expressions, là. Un resto français à Khartoum. Une voiture approche. Esra n'entend pas à cause du ronron de l'aspirateur. C'est mieux pour elle. Le suspense ne sert à rien dans ces situations. Je prends une profonde respiration, suivie de quelques-unes plus saccadées. Je pratique du fractionné. J'ai vu ça sur un cours pour acteurs que j'ai regardé ce matin, pour me sentir prêt. Il paraît que ça aide à se mettre dans le rôle. Être le plus crédible possible pour les enfants, pour Esra, pour l'aide au retour. La voiture se gare. Une familiale. Pour amener toute la famille en même temps, j'imagine. Je devine leur silhouette, à l'homme et à la femme. Toujours deux, si les choses venaient à dégénérer. Lui, dans ses habits impeccables, elle, dans ses habits impeccables. La dernière fois, il paraît qu'ils avaient des gants, de peur de la gale. « On n'est jamais assez prudent », avait dit le type. Les portes claquent. « J'ai fini », me lance Esra. « Je rangerai l'aspi, t'en fais pas. » J'entends les pas dans l'escalier. Je respire. Puis dans le couloir, ça se rapproche. « Ça va aller », me dit Esra. « Bien sûr, on s'en tient au plan. » Ça toque à la porte. Je m'allume une nouvelle cigarette qui ne passe toujours pas et je prends ma voix juste avant qu'Esra n'ouvre la porte. « Non mais qu'est-ce que t'as fait, hein? Ils sont où? Ils sont où les enfants, Esra? Qu'est-ce que t'as fait des enfants ?» Je me lève. L'homme et la femme n'ont pas le temps de me demander ce qu'il se passe que je leur explique. « Je viens de rentrer, je venais pour leur départ et pas de traces des enfants !» L'homme me regarde comme un crapaud autoritaire et fait le tour de l'appartement. « Ils sont où ?» demande-t-il à son tour. Esra suit le plan. Elle s'est collée contre la porte, tenant dans sa main sa valise et ne répond rien. La femme la regarde à son tour. « L'aide au retour est prévue pour toute la famille, madame. Ils sont où, vos enfants ?» Le plan est écrit. J'incrimine Esra. Je l'incrimine tellement fort que l'homme de l'OFI me demande de baisser la voix. « Mais si ça se trouve, elle les a abandonnés dans un parc !» Esra fait semblant de pleurer. La femme me demande de reculer, que ce n'est pas à moi de poser les questions ici. « C'est quoi votre nom ?» me demande-t-elle. « Stéphane, je suis l'éduc référent d'Esra. »« Bon, vous en faites pas, monsieur. On va les retrouver. » Esra termine le plan. « Ils sont en sécurité de toute façon, » lance-t-elle. « En sécurité ?»« À l'ASE. » « L'ASE. » comprend le type blasé. L'aide sociale à l'enfance. C'était mon plan. Je savais que si le dossier des enfants changeait de service, l'OFI pourrait plus rien, parce que la Convention internationale des droits de l'enfant prime sur toute autre convention. Les deux, là, arrivent trop tard. L'ASE, c'est plus notre service. Et donc ? Vous êtes sûre que vous voulez laisser vos enfants ici, madame ? Continue-t-il. Esra fait signe de la tête, un signe d'approbation. Je joue l'injurié, le furieux. La femme me demande une nouvelle fois de redescendre d'un ton. Elle me dit que c'est souvent comme ça avec ces gens, elle a l'habitude. Préfère laisser leurs enfants seuls en France que de rentrer avec. Ça marche. Le plan marche. Les deux n'ont pas l'air de chercher plus loin. L'homme me fait signer un papier. La femme me dit qu'ils vont y aller. Esra, dans l'embrasure de la porte, me fixe. Dans ses yeux, la joie d'un plan qui se déroule comme sur des roulettes. Je la regarde disparaître, entourée des deux agents de la direction territoriale. Et je l'entends chanter dans l'escalier sa comptine. « Aimer, il n'y a que ça qui compte. » Je referme la porte, la fenêtre, range l'aspirateur, puis quitte la pièce. Nathalie m'appelle. Une nouvelle arrivante m'attend au bureau. Je suis en retard. Dehors, en sortant, la voiture a déjà disparu. Partie 2. Une chambre dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse. Laïa ? Laïa, tu m'ouvres ? D'habitude, c'est plus rapide que ça. Je pose la question, je toque avec ma bague, trois fois court, suivi de deux fois long. C'est notre mot de passe pour éviter les lourds. Sylvain, on l'aime bien, mais Sylvain, c'est un garçon. Les éduques-mecs, c'est pas comme les éduques-filles. Surtout au moment des douches. Surtout au moment des règles. J'ai pris des tampons bio au cas où. Je sais que c'est en ce moment pour elle. Laïa ! J'aime pas. Quand ça répond pas, j'aime pas. On a tous ça en tête. Un exemple d'un moment où on a posé la question et où le jeune a pas répondu. Parce que souvent, quand le jeune ne répond pas, c'est que le jeune a un problème. Stéphie m'a raconté que quand il était gardien de prison pour mineurs, un soir, il en avait dépendu un des jeunes. Un petit gars qui n'avait pas supporté que la juge le place là. Le petit gars avait 15 ans, il s'appelait Sacha. Stéphane m'a raconté comment il était arrivé à temps, juste à temps. Le petit Sacha s'était déjà chié dessus. Il avait dû lui retirer la gerbe à même la trachée, puis lui perforer les côtes des deux poings pour que le pouls reparte. Et le pouls était reparti. Laïa ! Manque de peau, le cerveau du petit Sacha avait manqué d'oxygène durant 5 bonnes minutes. Et du coup, le petit Sacha était à présent un légume qui vivait dans un centre pour légumes. Laïa ! Quand il y repense, Stéphie dit que si c'était à refaire, il n'ouvrirait pas la porte. Que parfois, la nuit, il rêve de ce moment où il laisse Sacha tranquille. Laïa, ouvre ! Moi, quand ça m'arrive, quand j'y pense, il y a l'image d'un gamin, comme ça, pendu dans une chambre qui ressemble à une des chambres d'ici. Peut-être parce que Stéphane me l'a si souvent raconté. C'est ça aussi, de vivre avec un éduc. En même temps, qui d'autre qu'un éduc pourrait partager ce qu'on vit ici ? Un chat, peut-être. Dommage, je suis allergique. Laïa ! Pourquoi elle répond pas ? Merde ! Laïa ! Je frappe de plus en plus fort. D'un coup, j'ai le rythme cardiaque qui augmente. D'un coup, ça saccade, alors je tabasse plus fort. Laïa, c'est moi, c'est Lucie ! Ouvre ! Je me recule pour donner un coup de pied dans la porte. J'ai déjà vu ça dans une série. Ça doit marcher si elles font ça dans une série. Mais avant que j'aie eu le temps de balancer mon pied, Laïa ouvre la porte. Ça va ?
Ouais. Ouais.
Et pourquoi tu m'ouvrais pas ?
J'avais mes écouteurs. J'ai pas entendu. Dez.
Laïa s'assoit sur son lit. J'entre dans la pièce. Ça sent pas la clope. Ça sent pas l'alcool. J'inspecte parce que l'autre fois, il y en avait sous le lit. Je glisse mes mains. Il n'y a rien. Je vérifie juste. La dernière fois, il a fallu aller rembourser le Lidl pour les dizaines de bouteilles que Laïa avait piquées. J'ouvre les placards. Je te dis qu'il n'y a rien. Elle a les yeux louches. Ses yeux qui forcent une émotion, mais en pensent une autre. T'es sûr ?
Il y aurait quoi ?
On joue au chat et à la souris. J'avance une question, elle en avance une autre. Je connais la méthode, 15 ans que je suis éduque. C'est Seb ? Laïa répond pas. En plein dans le mille. Tu peux me dire ? Il t'a largué ? Laïa bégaye de la tête. C'est pas ça, mais ça aurait été préférable. Laïa le sait pas parce qu'on n'a pas à dire ce pourquoi les jeunes sont tombés. Tombés, placés, on cherche le mot. Placés, c'est l'officiel. Parce qu'ici, c'est pas que détendre, on les aime, mais c'est pas que détendre. Alors c'est quoi ?
C'est rien.
Je tente de l'adoucir. Tiens, c'est ta semaine, non ? Je t'ai ramené des tampons bio. Une fois encore, Laïa bégaye de la tête. Puis elle se met à fixer avec insistance son oreiller. C'est parce que Seb est en séjour de rupture ? C'était ça ou la prison, tu le sais, non ? Laïa bégaye toujours de la tête. Elle commence à me faire froid dans le dos. Tu veux me dire quelque chose, Laïa ?
Rien. Il n'y a rien. Il doit rien y avoir.
Comment ça ?
S'il y a quelque chose, on me l'enlèvera.
Je ne comprends pas, là.
Parce que toutes les choses auxquelles je tiens, on me les enlève.
De quoi tu parles ?
Je parle de toutes les choses auxquelles je tiens.
Mais moi, Laïa, on m'enlèvera pas de toi, tu le sais, ça.
Toi, t'es une éduque, t'es pas fait pour rester.
Je l'aime bien, Laïa. Il y a des gamines comme ça, elles te tendent un miroir de toi. C'est comme se parler à soi-même, c'est comme s'éduquer, se réparer. Mais Laïa bégaye de plus en plus de la tête. Elle répète comme un mantra.
Il n'y a rien, doit rien y avoir. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je vais appeler des collègues. Moi, je pratique jamais la contention, mais parfois, il n'y a que la contention qui fonctionne. La contention ou la sédation. Mais t'as pas envie que tous les gosses ressemblent au petit Malik qui arrive plus à sortir de sa chambre parce que les lumières lui agressent trop la rétine à cause des médocs. Je sors la tête de la chambre pour faire un signe à Sylvain qui fait une bataille de polochon avec d'autres jeunes. « Sylvain !» je murmure. Mais Sylvain comprend pas. « Sylvain ! Mais pourquoi tu murmures ?» me crie-t-il. Laïa se lève derrière moi. « Qu'est-ce que tu fais, là ?»« Rien. » Laïa me pousse. « Doucement, Laïa. Tu vas faire quoi, là, hein ? Tu vas faire quoi, Lucie ?» Laïa vrille pas souvent, mais quand elle vrille, vaut mieux pas être dans la même pièce. Elle ne s'en était jamais prise à moi. Je sens ses mains sur mes épaules. « Laïa ! Laïa !» Elle me fait tourner comme une toupie. Je me retrouve allongé par terre. Laïa disparaît dans l'escalier. Sylvain lâche son polochon et se lance à sa poursuite. « Ça sert à rien, laisse-la ! Et si elle fugue ? Et qu'elle fugue, elle reviendra bien un jour !» Sylvain s'arrête dans sa lancée. J'entends la porte de la résidence claquer en bas. Je me retourne et avant de quitter la pièce, remarque que quelque chose dépasse de son oreiller. Je m'approche et découvre le test de grossesse. Et la barre positive dessus. Je regarde par la fenêtre de sa chambre. Laïa a déjà disparu dans la ville. Laïa, reviens ! Fais pas la conne ! Personne t'arrachera rien ! Partie 3. Aziz. Séjour de rupture organisé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Au loin, le haut d'une montagne. Encore un peu, mon petit Ulysse. Franchis la montagne qui borde la mer et rentre chez toi. Derrière, il y a Pénélope. Derrière, il y a Argos. Derrière, il y a ta terre, ton foyer, ce pays que tu as quitté. « Va te faire foutre avec ton foyer, » me dit Seb. « Hé gros, tu la veux ta chmère ou tu la veux pas ta chmère ? Va te faire foutre avec ta chmère, j'ai le cardio cramé. » Seb est tout rouge. On dirait un type à qui on a ôté les poumons. Seb me regarde avec des yeux du genre « Nique-toi de là avec tes bails à la con. » « C'est pas des bails, c'est la crête. » Et si on est là, mon petit pote, c'est autant de ma faute que de la tienne. J'en ai rien à foutre de tes bails de dieu grec, gros. Moi, la crête, c'est mort. J'en veux plus. Les autres sont déjà presque en haut. Il y a Nathan qui nous regarde une vingtaine de mètres plus loin. Il a dû nous entendre. Bah alors, qu'il semble faire avec ses mains. Et l'autre tocard, là, qu'est-ce qu'il a à nous regarder, hein ? Sepp supporte pas d'être le dernier. Ça la fout mal pour un petit caïd. Enzo et Gaël vont bientôt franchir la montagne. Bientôt, il n'y aura plus que nous deux de ce côté-là. Pense à Ithaque, Seb. C'est la fin du périple. Mais je m'en tape de ton périple, gros. Allez, suffit de mettre les pieds l'un devant l'autre, comme ça. Un, puis deux. Un, puis deux. Une danse, quoi. Je lui montre. Je le connais, le gaillard. Il fait sa tronche, mais joue pas le loubar, gros. On me la fait pas, moi. 3 mois que je le réveille tous les matins. L'autre fois, quand on était aux cabanes sur la plage et qu'il n'y avait pas de piles dans la lampe, parce que pour lui faire peur, je les avais enlevées, j'ai retrouvé Seb le matin, tout emmitouflé dans son sac de couchage, tout serré contre moi, comme un petit gosse, le loubard, à téter son pouce comme une première section de maternelle. « Allez, un pied, puis l'autre. Vas-y, va te faire niquer avec tes pieds. Nique ta mère, tiens, et nique ton père, et nique ta sœur, et nique ton frangin, et nique toute ta famille. » Pour pas avoir peur d'inceste avec Seb, c'est clair. Seb se retourne. Derrière lui, la mer, les vagues. Puis revient sur moi. Ok. Mais Seb ne bouge pas. Parce que le problème, c'est qu'à quelques mètres de nous, il y a le précipice qu'on longe depuis le début de la montée, à flanc de falaise. Suffit de pas regarder. Allez, tends ta main, je te dis. T'as facile, toi. Donne ta main.
Seb obtempère enfin. On avance encore un peu, mais il y a une pierre qui glisse sous sa chaussure. Seb dégage sa main pour se rattraper. Il manque de tomber. Nick Taras, t'as vu ? On peut pas vous faire confiance à vous, les éduques. Si on peut pas nous faire confiance, Seb, c'est parce que vous mettez pas les chaussures qu'on vous donne, parce que sinon, tu pourrais nous faire confiance. Seb a préféré garder ses Nike Air parce qu'elles lui semblaient moins pétées que mes chaussures de rando. Enzo, Gaël et Nathan sont tout en haut. Ils vont bientôt passer de l'autre côté. Ils nous font un petit signe. Dépêche-toi, Seb. Faut qu'on garde les autres à l'œil. Rien à foutre des autres. Rien à foutre de personne. Ils peuvent tous crever. Je me pose à côté de lui. Ça tombe bien, j'ai un point de côté. Je vais pas faire le fier longtemps si je m'arrête pas non plus. Je sors les Marlboro. Je lui enfile une. On s'allume une clope. Seb respire comme un cramé. Avec le vent qu'il fait, les clopes se consument en deux-deux. Faut tirer comme des malades pour avaler quelque chose. Seb regarde la mer, les vagues. Au loin, il y a des oiseaux dans le ciel. Ça fait comme une petite ondulation. T'aimes ?
J'aime quoi ?
Je sais pas, les oiseaux, les nuages.
La seule chose que je kiffe, c'est la défonce, Aziz. T'aurais pas un petit joint ?
Vas-y, je suis sûr que tu dois t'en cramer en loose day. Si, bien sûr, j'en ai plein le sac, rien que pour toi.
Seb le sait. Ce séjour de rupture, c'est la dernière chance que lui a laissée la PJJ. Si Seb se reprend pas, la prochaine étape, c'est la tôle.
Je marque un silence. Il y a ce jeu qu'on faisait gamin avec mon père, quand on prenait le bateau pour aller au bled. On fixait le ciel, et souvent au passage d'un nuage, mon père m'inventait l'histoire de celui-ci.
Regarde là, on dirait un petit dromadaire qui demande sa route. Avec ses deux bosses là ?
Non, mon fils, avec ses deux bosses, c'est un chameau. Mon père me faisait rire. C'est un peu pour lui aussi ce voyage, pour l'Odyssée qu'il aurait tant aimé faire. Les îles grecques, les Cyclades, la Crète, son petit tour du monde en bateau. Je tente ma chance avec Seb.
Regarde le petit nuage là, on dirait un cheval endormi.
Qu'est-ce que t'as dit là ?
Je répète.
On dirait un cheval endormi.
Tu me parles du nuage là ?
C'est ça, oui.
T'es chelou. T'as mis quoi dans tes clopes, Aziz ? Du kiff ?
T'as vu ? J'en étais sûr que tu fumais en douce. Vas-y, Aziz, fais bédave.
Tu vois quoi, toi ?
Je vois rien qu'un putain de nuage qui flotte. Un putain de nuage tout gris. Et bientôt, on va se faire saucer. Voilà ce que je vois.
Seb ramasse une boule de terre et la balance dans le précipice. On compte. Cinq secondes. Un choc. Vu la taille de la boule, il y a bien 50 mètres.
Je pourrais sauter, là.
Tu pourrais sauter où ?
Comme la boule, là. Et pourquoi tu ferais ça ?
Ça ferait chier qui, hein ?
Les autres, tes potes.
Les autres ? Quels autres ? Tout le monde s'en branle de moi.
Je montre à Seb les gars derrière, je me retourne. Mais je vois qu'il n'y a personne.
Moi, ça me ferait chier.
Je m'en fous de toi, comme tu t'en fous de moi. Moi, je suis ton taf, c'est tout.
Pense à Laïa.
C'est pareil, elle s'en tape, elle aussi.
Dans la mythologie grecque, la mer, c'est Pontos, le ciel, c'est Ouranos, et les montagnes, c'est Ouréa. Toutes sont les filles de Gaïa, la mère sacrée.
Pourquoi tu me racontes ces conneries-là, Aziz ?
Parce qu'on est plus grand que ce que tu crois. On appartient à tout ça.
Ça n'a pas l'air de le convaincre, ce que je dis. On y retourne. Faut qu'on arrive au refuge avant la nuit.
Tu sais, Aziz, si tu me laisses là, il n'y aura personne pour savoir. T'auras qu'à dire que c'était un accident.
De quoi tu parles, là? Allez, 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 lève-toi et marche au lieu de raconter des conneries.
Mais Seb ne bouge pas.
Tout le monde m'abandonne un jour, c'est comme ça, Aziz. Je suis un abandonné, alors autant en finir une bonne fois pour toutes.
Bon, va falloir que je passe à l'action. J'avais pas compté sortir ma carte joker tout de suite, mais avec Seb, faut savoir dégainer vite. J'ouvre mon portefeuille et lui tends mon passeport.
Regarde, c'est quoi tous ces tampons là?
L'itinéraire d'un paumé, comme toi. C'est tous les pays que j'ai faits.
Laos, Pérou, Mexique, États-Unis. Ah ouais, t'as fait le Koweït aussi?
Et l'Irak.
Et Israël et la Palestine.
Par Israël, oui.
T'as fait l'Égypte?
Faut croire.
Mais alors si t'es un grand voyageur, qu'est-ce que tu fous là avec un paumé comme moi?
Bah, c'est que tu dois pas être si paumé que ça pour que je sois là à me faire chier avec toi.
Tu sais, Seb, si ça a été possible pour moi tout ça, pourquoi ça ne serait pas pour toi?
Parce que je suis qu'une pauvre merde qui intéresse personne, voilà.
Wesh, poteau, qu'est-ce que tu racontes, là?
J'entends la voix d'Enzo derrière nous, je me retourne. Il y a Nathan et Gaël juste à côté de lui. Les trois tiennent une corde entre les mains. Ils ont dû entendre toute notre conversation.
Qu'est-ce que vous foutez là, vous?
De l'autre côté de la montagne, il y avait des escaliers.
Et le long des escaliers, il y avait cette corde.
On s'est dit que ça pourrait peut-être t'aider, Seb, non? Si t'as le vertige.
Mais j'ai pas le vertige, moi.
Alors si t'as pas le vertige, t'as qu'à prendre ça comme une ligne de vie. On fait tous pareil. On la tient et on avance.
Une ligne de vie? Grave.
Ok, vas-y. Balance ta corde. Ces petits gars me surprendront toujours. Nathan tend la corde à Seb, Enzo et Gaël l'entourent et les voilà repartis.
Je te préviens, Aziz, passez la montagne, je retourne plus de ce côté-ci!
T'inquiète pas, Seb. Les montagnes, c'est fait pour être franchi, pas pour revenir en arrière. Les petits gars se mettent à avancer, comme ça, en file indienne, en serrant Seb. Mon téléphone sonne, c'est l'EHPAD.
Allô?
Monsieur Faez?
Aziz, son fils, oui.
Monsieur Faez, c'est l'EHPAD.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
C'est votre père, il est... Je suis désolé, monsieur Faez.
Partie 4. Marie-France. Un chantier de réinsertion dans le parc d'une maison de retraite. Manu danse quand il ramasse les feuilles. On dirait ma mère. Quant à la danse du coq, elle valsait la java. Ça fait plus de 3 mois qu'on vient ici à s'occuper du parc. Il y a toujours un petit vieux là, assis au coin de son banc, qui regarde au loin les feuilles de Manu voler et qui dit comme ça « On dirait la mer, les vagues. » Et Manu qui lui répond « Bah ouais. » Manu parle comme ça, la plupart du temps par « bah ouais ». Parce que quand tu viens d'où Manu vient, la misère s'est toujours beurrée une tartine de foie gras sur ton dos alors « bah ouais, c'est comme ça. » Manu aime bien le petit vieux. Ça se voit. Quand il le regarde, il sourit. On dirait un enfant. La directrice de la maison de retraite dit que depuis que M. Faez est arrivé ici, le vieux passe son temps assis sur le banc à regarder la mer comme si un jour, bientôt, il allait enfin reprendre le bateau. Mais aujourd'hui, le petit vieux n'est pas sur son banc.
Au début, Manu aimait pas trop ici. Trop un branleur, c'est pas tenir un balai, préfère les pauses clopes, disaient les autres.
En vrai, c'est que Manu sait pas comment faire avec le travail. Quand il est venu me voir à la mairie pour avoir un poste, il était en foyer d'urgence du 115. C'était pas facile pour lui, mais ça allait. Le chien pouvait venir, ça allait. Il aurait pu tomber pire. Dans le sud, il y a pire. Il y a des endroits, quand il ramasse quelqu'un dans la rue, il l'envoie directement dans des couvents des communautés chrétiennes, parce que c'est là-dedans qu'il y a de la place. Et les types rencontrent Dieu. Manu m'a dit qu'il avait une copine, parce que quand t'es dans la rue, tu vis jamais seul. Elle était partie un jour, comme ça, dans un couvent.
parce qu'elle avait fait un bad trip et qu'elle n'en était jamais ressortie. Bah ouais. Quand il l'avait revue, quelques années plus tard, c'était devant une gare. Elle se la jouait témoin de l'apocalypse. Elle avait une bague au doigt. Elle disait qu'elle était mariée à Dieu. Même si, pour le moment, c'était le père spirituel du couvent qui l'a... Bah ouais. Manu est toujours en retard parce qu'il dit qu'il dépose son chien chez des potes. Parce que quand t'es dans la rue, tu vis jamais seul. Toujours avec ton chien. Parce que si les flics veulent t'embarquer, ils sont obligés d'appeler la brigade canine et que ça les fait chier. Alors si t'as un chien, t'es tranquille, c'est comme ça. Bah ouais. Ici, c'est interdit les chiens. Pour les petits vieux, on sait jamais, des fois que ça morde. Aujourd'hui, on doit finir le chantier. Ici, la moitié des emplois sont en chantier de réinsertion. On a juste les arbres à tondre. Les arbres, c'est facile. Les arbres, c'est sympa. T'as jamais vu un arbre cogner un gars parce qu'il l'avait regardé de travers? Moi, je surveille le chantier. Qu'il n'y ait pas un gars qui s'en prenne à un autre. Parce que dans les vestiaires de la mairie, on ne s'échange pas que des câlins. Mon téléphone sonne.
Pourquoi tu commences toujours par Marie-France? C'est mon prénom, je le connais. C'est mon téléphone. Il y a ton prénom de marqué, là, Nathalie avec un petit cœur quand tu m'appelles. Alors je sais qui appelle et tu sais qui tu appelles. Oui, mais ça fait tout de suite grave quand tu commences par Marie-France. Ça me glace le sang, oui. Mais quel truc à gérer? Encore Stéphane? Il a fait quoi comme connerie, celui-là? Oui, bah tu dois lui faire comprendre qu'Éduc, c'est pas faire le bon samaritain. Il y a des règles, des contraintes. Pourquoi je m'énerve? Bah parce que c'est chiant, voilà. T'es jamais là, Nat, jamais. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'es pas dispo, j'irai chercher Cédric, oui. Mais t'es chiante, Nat. Oui, oui, bah moi aussi je t'aime, mais t'es chiante.
Nathalie est débordée depuis qu'elle est chef de service en centre parental. De toute façon, être dans le social, si ça détruit pas ton couple, c'est que t'es allé butiner ailleurs. Nico et Jérôme sont en train de terminer les derniers tas de feuilles. Allez les gars! Et l'autre branleur là, il veut pas nous aider? Fait Nico. Parce qu'il y a Manu dans un coin qui fixe l'horizon. Ça va? Ben ouais. Tu regardes quoi? Le banc. Le banc? Ben ouais. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu Monsieur Faez. Il doit être dans sa chambre. Pas aujourd'hui. Comment ça, pas aujourd'hui? Hier, je lui ai dit que j'avais un cadeau pour lui. Un cadeau? Ben ouais. Manu tient quelque chose serré dans sa main. Tu me montres? Surprise. Faut avoir confiance parce que Manu est sous clopixone, un antipsychotique. Si un délire lui prend, comment je le sais, moi? Fais-moi confiance. C'est un cadeau pour Monsieur Faez. T'inquiète, il va bientôt venir, ton Monsieur Faez. On termine le chantier. Nico et Jérôme rangent le matos. Il y a la directrice qui vient nous remercier. Vous avez fait du bon boulot. On s'apprête à remonter dans le camion, mais il y a Manu qui va s'asseoir sur le banc. La directrice le regarde. Et il fait quoi, là, sur le banc? Il attend Monsieur Faez. Monsieur Faez, on vous a pas mis au courant? Manu nous fixe. Je le vois courir à l'intérieur de l'établissement et l'entends hurler. Il est où? Il est où? Je lui cours après. Manu est devant l'accueil, la main serrée. Je veux voir Monsieur Faez! Monsieur Faez? Mais Monsieur Faez vient de... La directrice arrive. Venez, dit-elle délicatement. On la suit. Normalement, on n'a pas le droit si on n'est pas de la famille, mais la directrice a compris que Manu en avait besoin. On arrive dans une grande salle carrelée, au bout de la maison de retraite. Il y a des paravents, des gens allongés sur des lits. 4 en une semaine, oui. Et les familles? La plupart ici, les familles ne viennent pas. Alors, passé le délai légal, on les enterre. Manu repère M. Faez tout au bout de la salle. Il s'avance, je l'accompagne. Monsieur Faez a l'air de nous regarder, silencieusement, étrangement. Manu s'en approche, il pose sa main sur la poitrine de Monsieur Faez et y dépose son contenu. Un petit bout de papier. Un origami. Un bateau. Puis Manu sort de la salle. Je le suis, en silence. On retourne au camion. Les autres ont presque fini de ranger. Je dis à Manu, « Si tu veux, on peut en parler. »« Ben non. »« T'es sûr ?»« Ben ouais. » On monte dans le camion. Il est 17h, je vais être en retard. Et Cédric aime pas être le dernier au centre. C'est normal, ça fait pimpin, comme dit Jérém. Partie 5. Jean-Michel, foyer spécialisé d'accueil de jour, salle de théâtre. On y va ? On leur montre, les gars, ce qu'on sait faire ? Je me dirige vers l'interrupteur. Là, il y a Patou qui passe le rideau. T'es pas sérieuse, Patou ? On n'a pas encore commencé. J'ai pas éteint les lumières. Je m'énerve. Je fais semblant. J'aime bien. Les lumières ! Faut bien feindre l'ordre. Il n'y a personne dans la salle, il n'y a jamais personne, il n'y a que nous. De toute façon, tout le monde s'en fout de nous. Et nous, on s'en fout qu'il n'y ait personne. On ne fait pas ça pour ça. On fait du théâtre pauvre, du théâtre sans spectateurs. On fait du théâtre pour le théâtre. Mais pas tous les lumières quand même ! C'est le symbole ici, pour tout le monde. Quand je les éteins et que je les rallume, on commence. On y va ? Patou repart bredouille. Elle veut toujours passer la première, parce qu'elle pense que comme ça, les gens auront oublié ce qu'elle avait dit. Tu passeras en dernière, Patou, et ce sera bien. On y va. La salle est serrée. 12 mètres carrés, dont 6 mètres carrés de scène. On s'en fout. On n'est pas là pour se plaindre. Il y a un piano, il y a des amplis, il y a un ordi, il y a un canapé, il y a un rideau. Ça nous suffit. Le rideau, c'est comme un signe. Tout le monde le comprend. Pas besoin de farandole, de néon, de fumée. C'est Jérém qui commence. J'ai donné l'exercice tout à l'heure avant la pause de midi. Que vous auriez à dire s'il ne vous restait qu'une seule chose à dire ? Jérém a écrit lui-même son texte. J'éteins les lumières et je les rallume. Le théâtre se fait. Jérém rentre fébrile. C'est un grand gars, un grand balèze avec des habits toujours trop grands pour lui. « Rentrer » est un bien grand mot. Plutôt, il se lève du côté où il est assis, sur le canapé. Il ouvre le rideau, nous regarde. Mais avant de parler, il y a Sacha qui lui dit qu'il n'a pas fait ses lacets. Que ça porte malheur sur une scène de ne pas faire ses lacets. Je dis à Sacha que j'ai jamais entendu une chose pareille. Mais Sacha se lève et s'approche de Jérém. Et là, Sacha lui refait ses lacets. Puis, il va se rasseoir. Jérém peut enfin commencer. Et Jérém dit, en nous regardant droit dans les yeux, « Vous me regardez avec terreur parce que je vous rappelle l'handicap que vous portez en vous comme des monstres. Vous me regardez, moi, le pimpin. C'est ça ?» Ça commence sec. Puis, Jérém salue, comme toujours ici. On salue, on se représente, on se reconnaît. C'est pas de l'art-thérapie, c'est de l'art dans sa forme la plus pure, se reconnaître en tant qu'humanité. C'est ce que dit souvent Nadia, ma collègue de l'atelier art plastique. Ici, nous, ce qu'on fait, c'est partager notre humanité, se reconnaître. C'est la seule chose incontestable. Comment contester l'appartenance d'une personne au monde ? C'est à ça qu'on se rattache. On y croit. Sinon, on ne reviendrait pas. Pour 1500 balles sans considération dans des locaux vétustes, on ne reviendrait pas. Hakim jaillit sur scène. Hakim parle peu. Essentiellement par le corps. Quand Hakim rentre, c'est toujours comme un uppercut, comme un coup de réel qui te revient dans la face. Et là, Hakim fait un petit geste, les yeux fermés, une petite pulsation comme ça de l'épaule, du genre de dire « Rien à foutre, j'ai rien à vous dire de plus qu'un autre. » Hakim est un roi. Puis Maeva prend sa place. Maeva a fait une crise il y a quelques semaines. Depuis, c'est compliqué pour elle. Elle rentre et sourit. Rigole presque. Puis ça coule le long de ses joues. « Je vous aime, comme les feuilles du printemps, nous dit-elle. Le silence se fait. Et encore du monde à passer. Hervé, un sketch, toujours. Parce qu'Hervé pense que le rire nous sauvera. Il rentre sur scène et nous tire la langue. Patou ? Elle fait non de la tête. Gaspard, assis dans un coin, trépigne. Je lui demande s'il veut passer. Il dit qu'il a très envie, qu'il aimerait nous dire quelque chose de fort. Gaspard fait toujours ça. Parler avant d'agir, ça le rassure. Et là, Gaspard nous récite une tirade du roi Lear. Dès que nous naissons, nous pleurons d'être venus sur ce grand théâtre de fous. Gaspard salue, Jérém se lève et applaudit. Cédric ? Au mur, il y a les petits dessins du langage des signes. J'engage la conversation. Je signe « Ça va ?»« Ça va. Tu veux passer ?»«
Je n'ai rien à dire », signe-t-il.
Il reste Sacha qui bug toujours sur les lacets de Jérém et Patou qui fait comme si j'allais l'oublier et colle sa tête entre ses mains, espérant disparaître. « Vas-y, Patou !» Elle rentre sur scène et se met à rire de toutes ses forces. Et là, on explose tous de rire, la dizaine qu'on est là. À la fin de la séance, Gaspard nous dit qu'il a quelque chose à nous dire. Comme toujours, il rajoute « quelque chose de touchant ». On t'écoute, Gaspard. Je vais avoir un appartement seul, juste à côté. On sait tous ce que ça veut dire pour Gaspard, un appartement seul. Ça veut dire la liberté. Lui qui vient ici depuis 12 ans. À l'entrée, une photo en témoigne, on y reconnaît Gaspard, Hakim et moi, plus jeunes. Le seul handicapé du groupe, comme dit souvent Jérém. Je retrouve Nadia sur le parking. On fume une clope. Paraît que le budget des activités pour l'année va être réduit. C'est possible, ça ? Il va passer de 50 euros l'année à 40. La vérité, c'est que les pimpins n'intéressent personne. Jérém a raison. Les pimpins nous rappellent trop à cet handicap que nous portons en nous comme des monstres. Je monte en voiture, fais un petit signe à Marie-France qui arrive encore à la bourre. Cédric est encore le dernier. Je m'éloigne. Je monte le son. Je me noie dans les basses. Je sors de la résidence. Je prends la nationale direction Frouard. Je cherche une clope dans la boîte à gants. J'entends un coup de klaxon de l'autre côté de la voie. Je relève la tête, je redresse le volant, distingue une forme devant moi. J'ai pas le temps de freiner. Le bruit, sourd, l'impact. Je ralentis. Je regarde derrière par le rétro. Il y a un corps. Je me range sur le bas-côté. Un corps allongé sur l'asphalte. Le corps d'une jeune fille. Partie 6. Scheherazade. Pour beaucoup ici, les gamins sont des dossiers. Ils passent, les uns après les autres. Pour beaucoup ici, on ne doit pas s'attacher. C'est ça la corde qui nous étrangle. L'attachement. Eifer m'appelle au téléphone. Allô ? On se retrouve toujours en ville ? Of course. J'ai rencontré Eifer il y a 3 ans. Eifer va en avoir 18 dans quelques jours. Elle est afghane. Elle est arrivée avant le retrait des Américains. Parce que ses parents étaient contre les talibans et qu'ils avaient bien compris ce qui se passerait après le retrait. Ce soir, c'est Sephora, une pizza Rustan et un petit film à l'UGC pour fêter son anniv et le contrat jeune majeur, qui permet à Eifer de rester ici. Plus tard, Eifer rêve de faire des études de mode ou de lancer une ligne de vêtements pour femmes. De toute façon, Eifer n'a pas trop le choix. Si elle retourne en Afghanistan, c'est à la rubrique nécrologique qu'elle fera parler d'elle. Ça va les cours ?
Ça va.
Tu finis à quelle heure ? 17? On se retrouve vers 18? Ok. Fais-moi plaisir. Fais attention quand tu longes la nationale. T'inquiète, je prendrai le bus. Ok, je te laisse. J'ai une évaluation à faire. Tu me dégoûtes avec ton métier. Moi aussi, je t'aime. On blague. Je l'aime bien, cette gamine. À tout à l'heure. Je raccroche. Je pousse la porte du bureau d'évaluation. Il y a un gamin. Première question. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu as des papiers? Eddie fait signe qu'il n'y a rien. Eddie, c'est l'autre éduc avec qui je fais la rencontre. C'est comme ça, le protocole. Qui l'a trouvé? C'est le département qui nous l'envoie. Nationalité? Syrien, il dit. J'espère pour lui qu'il est mineur, sinon ce sera procédure accélérée et on n'en parle plus. Pauvre connard. Le gamin me regarde. Est-ce qu'il aime le français? Tu parles français? Visiblement non. Si le gamin parle pas français, faut faire venir un traducteur. J'ai quelques notions d'arabe qui me restent, mais ça va pas chercher bien loin. Ça me permet juste de dire deux ou trois trucs qu'Eddie peut pas comprendre. Pas sûr qu'il soit mineur, lui. Les apparences, ça regarde personne. Et puis en France, il y a un droit, présomption de minorité, tu connais? Pourquoi t'es toujours de leur côté, Shirazade? Peut-être parce que de l'autre côté, j'arriverai plus à me regarder dans une glace. Eddie me fixe. J'aime pas ce type, avec sa petite casquette, son petit air prétentieux de blanc-bec. Nadège toque à la porte. Elle nous demande si tout va bien. On a besoin d'un traducteur. Pashtoun? Non, arabe. Le gamin est syrien. Ok. En attendant, on fixe le jeune. C'est dans ces premiers moments que la confiance se construit. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai demandé ma mutation dans le service des évaluations. Je lui souris. Je suis de ton côté, petit gars. Je suis pas là pour t'enfoncer, je lui dis en arabe. Lui, si, fais gaffe. Écoute rien de ce qu'il te propose. Vas-y, arrête avec ton charabia, là. On est deux, et j'ai besoin de comprendre. Ce connard me sourit. Éduc d'extrême droite, tu m'étonnes. Eddie jubile depuis que c'est à des éducs de faire l'évaluation de minorité. Ce qu'il préfère, c'est la radiologie, les tests osseux. C'est toujours lui qui veut accompagner quand c'est l'heure des tests. Nadège revient. C'est bon, j'ai appelé. Le traducteur arrivera cet après-midi. Impossible avant. Et on en fait quoi de lui? On l'installe à l'étage, on lui file une piole et à manger. De toute façon, il ne mangera pas. La confiance n'est pas établie. Et puis la bouffe est dégueu, des barquettes Sodexo, le plus bas de gamme. Faut pas déconner non plus, c'est que des migrants. Je vais prendre une pause, je peux? Je remonte au bureau, je passe voir les gars, 3 à 4 par chambre. Écouteurs sur les oreilles. Je les connais. Avant d'être à l'évaluation, j'étais ici à l'étage. L'évaluation, ça fait 3 mois que j'y suis. Walid et Djibril sont arrivés en même temps. Ils erraient à la gare. C'est Nadège qui les a trouvés en maraude. C'est comme ça qu'on les récupère la plupart du temps, quand c'est pas le conseil départemental qui nous les envoie ou des types des communautés qui téléphonent. Walid et Djibril sont comme des fantômes. Ils errent en ville, espérant qu'un jour on leur offre la possibilité d'avoir un corps. En France, leur corps, c'est la carte de séjour. C'est peut-être ça qu'il y a de pire ici. La carte. C'est la carte qui fait d'un homme un homme. Y a Mehran dans le hall. Je le prends entre 4 yeux. T'en es où? Ça va. Mehran est albanais, c'est con pour lui. En ce moment, le bon plan, c'est iranien ou ukrainien. Ukrainien, c'est carrément le jackpot. Mais albanais, tout le monde s'en fout. Si Mehran devient mineur pour l'État français, il aura le droit au foyer, mais passé le jour de ses 18 ans, terminé. En Europe, il y a un droit pour les enfants. Il y a une convention. Mais quand tu passes 18 ans, tout le monde s'en fout. Faudrait que Mehran soit un Albanais hors du commun pour qu'il ait le droit à une régularisation en France. Qu'il sauve une petite fille de la noyade, surtout si Mehran ne sait pas nager. Ou qu'il sauve une famille entière des flammes. Soit des fantômes, soit des héros. Point barre. Jamais des hommes. Au bureau, je fais coucou à David qui vient d'arriver. Avant, il était en foyer de la PJJ, mais c'était trop dur pour lui. David est au téléphone. 4 gamins viennent d'être déposés devant le conseil départemental. Pas de parents? La mère est sous le coup d'une OQTF et visiblement, elle les a abandonnés. Mais ils ont quel âge? Entre 3 et 12 ans. Et en quoi ça nous regarde, alors? Il n'y a plus de place ailleurs. Ben, faut les envoyer en pouponnière, plutôt, ou en famille d'accueil. On va quand même pas évaluer la minorité d'une gamine de 3 ans. Je pose. On va manger avec deux collègues. On évite de parler boulot. On fait des blagues. On essaye d'être léger. La plupart des gens ne connaissent pas l'existence du foyer, enfoui là entre deux constructions modernes. Un foyer d'hébergement temporaire qui était censé être temporaire lui aussi, mais qui commence à durer. On est juste à côté de Nancy Thermale, ici, où tout se construit, où la ville rayonne. Nous, on est des fantômes. Après le repas, on retourne au foyer. Le traducteur est arrivé. On interroge le gamin. Il dit qu'il a 16 ans, il raconte son histoire. Son père et sa mère sont morts, assassinés par l'armée de Bachar al-Assad. Son grand frère était dans l'armée syrienne libre, mais elle n'était pas assez organisée. Alors il a rejoint al-Nosra. Et lui, il n'avait pas le choix. C'était soit rejoindre les milices islamistes, soit attendre que l'armée de Bachar l'assassine à son tour. Je l'arrête tout de suite. Je l'ai déjà entendu 1000 fois, cette histoire. Le gamin a dû l'acheter à un revendeur d'histoires. Je lui dis qu'il n'a pas besoin de mentir, que s'il est mineur, on l'aidera. Mais le gamin continue dans son mensonge. Je lui dis que c'est dommage. Je suis de ton côté. Le traducteur traduit. Le gamin n'a pas confiance. Il s'est fait avoir à toutes les étapes de son trajet, alors forcément, ça forge la suspicion. On termine l'entretien. Le gamin est mineur, mais n'obtiendra rien après sa majorité. On va le garder ici 2 ans, en attendant. Fantôme en sursis. 16h30. Je termine. Je descends en ville. Je passe au Sephora acheter un petit cadeau à Eifer. Un gloss rouge qui pète. 18h. Je suis devant la Fnac, à l'attendre. C'est bizarre. Eifer n'est jamais en retard. 18h30. J'essaie de l'appeler, pas de réponse. Je reçois un coup de téléphone de David. Tché ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Quoi ? Il y a une jeune qui vient de se faire renverser sur la nationale. On la connaît ? Oui. C'est Eifer ? Dis-moi, David, c'est Eifer ? Derrière moi, une petite voix. Désolé du retard. Je la reconnais, je me retourne. Eifer est juste devant moi. Je l'enlace. Tu m'étouffes, Tché ! Doucement ! Au téléphone, David continue. Non, c'est pas Eifer. C'est Laïa. Elle longeait la nationale, bordel de merde. Cette putain de nationale ! Je reprends le téléphone, je lui dis que ça va aller. Même si je sais que ce sera compliqué. Laïa, c'était un peu son Eifer à lui. Je raccroche. On descend la rue Saint-Jean. On va manger une pizza. On parle de son école de mode. Je lui offre le gloss. On prend un milkshake. On parle d'avenir. Eifer me dit que quand elle sera grande, elle m'amènera avec elle là où c'était chez elle avant. Maintenant, chez moi, c'est toi, me dit-elle. On se fait un film américain, un film de super-héros. À la fin du film, il y a une scène où le héros sauve toute la planète en se sacrifiant. Eifer me demande pourquoi je pleure. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'y crois. Peut-être parce que j'espère. Que malgré le monde, nous puissions un jour vivre heureux, ensemble. Et non survivre. Malgré le monde. Simplement. Vivre.
Malgré le monde. Portrait fantôme. Texte lu par Assam Gansi. Écriture et mise en voix, Guillaume Caillé. Sound design, Bernard Valéry. Production, théâtre de la manufacture, CDN Nancy-Lorraine.